Nicolas Torgnol sait qu'il peut compter sur Aline et Sonia, ces deux diablesses qu'il surnomme avec tendresse Attila et Attali.
En parlant de diable, merci Daniel Morin.
Je vous en prie.
Bonjour Nicolas Demorand.
Bonjour Mathilde Munoz, France Inter, 7h.
Le 7-10, Léa Salamé, Nicolas Demorand.
Mardi 10 juin, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, des militaires supplémentaires envoyés à Los Angeles.
Donald Trump a donné l'ordre à 700 marines de se rendre en Californie où ont lieu depuis quelques jours des affrontements entre police et manifestants. Nous sommes sur place dès le début du journal. En Israël, les militants pro-palestiniens qui tentaient de rejoindre Gaza avec un voilier ont été transférés à l'aéroport de Tel Aviv. Hier, plusieurs manifestations de soutien se sont déroulées en France. Dans ce journal aussi, le préfet de police de Paris qui doit s'expliquer sur les violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et puis le cycliste Romain Bardet chez lui pour la troisième étape du Dauphiné.
Et les invités d'Inter ce matin, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Ehud Olmert a été premier ministre d'Israël, maire de Jérusalem et membre fondateur du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, le parti de Benjamin Netanyahou, qu'il critique aujourd'hui avec des mots au vitriol. Ehud Olmert est de passage à Paris, invité exceptionnel de la Fondation Jean Jaurès. Vous l'entendrez sur France Inter à 7h50.
A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien Premier ministre Michel Barnier, qui revient sur son parcours politique dans un livre, « Ce que j'ai appris de vous », publié chez Calman Lévy. Et puis à 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivain Christophe Onodibio.
France Inter. C'est l'iconographie habituellement associée aux régimes autoritaires des pays en voie de développement, des soldats en treillis face à des manifestants, images qui nous viennent désormais des États-Unis. Après avoir décidé d'envoyer la garde nationale des réservistes à Los Angeles pour répondre aux heurts depuis plusieurs jours entre policiers et manifestants, Donald Trump a donné l'ordre à des militaires d'active de se déployer dans la ville. 700 marines officiellement mobilisées pour protéger les bâtiments fédéraux et les fonctionnaires, mais pas pour des missions de maintien de l'ordre. Benjamin Illy, vous êtes notre envoyé spécial à Los Angeles. Bonjour.
Bonjour.
Los Angeles, où il est 23h et où la ville vit une quatrième nuit de tension.
Ailleurs, à Los Angeles, tout est calme, comme si on ignorait ce face-à-face qui se poursuit à tous les coins de rue du centre-ville. Disperse now. Des petits groupes de manifestants dispersés ici devant la mairie de Los Angeles. Dernière sommation de la police qui menace de tirer des balles en caoutchouc ou des gaz lacrymogènes. Devant tous les bâtiments officiels, les bâtiments fédéraux, les forces de l'ordre sont déployées en protection. Parfois, on entend une détonation. Il y a le balai des hélicoptères aussi dans le ciel. La tension est palpable, mais Fernando, 30 ans, drapeau américain et mexicain noué sur les épaules, se devait d'être là. Je suis mexicain et américain. Mes parents sont venus ici pour nous offrir une meilleure vie. Je suis ici pour soutenir tous ceux qui doivent rester cachés, qui eux aussi veulent une meilleure vie pour leurs enfants. C'est la résistance. La présence de la garde nationale, ça ne fait qu'empirer les choses, selon Fernando. Plus ils enverront des troupes, plus les manifestants vont se mobiliser pour combattre l'oppresseur. Nous devons nous battre, mais sans violence. Il reste alors la violence des mots. Sur tous les murs du centre-ville, les insultes adressées à la police de l'immigration, à Donald Trump en particulier, les manifestants qui qualifient ainsi le président. La colère qui s'exprime dans le centre-ville de Los Angeles, déclarée zone de rassemblement interdite.
Reportage de notre envoyé spécial Benjamin Illy à Los Angeles. Le procureur général de Californie envisage des poursuites contre le président américain. Il estime que la mobilisation de la garde nationale sans l'aval des autorités locales viole la Constitution. Donald Trump, qui sur d'autres dossiers avait promis de régler le conflit ukrainien en 24 heures, de nouvelles attaques russes ont visé cette nuit Odessa, où un homme est mort dans des frappes sur des immeubles d'habitation. Une maternité d'Odessa évacuée à temps a aussi été attaquée. Des blessés également à Kiev, où le maire parle d'une attaque massive. Eux sont actuellement à l'aéroport de Tel Aviv. Les militants pro-palestiniens arrêtés par Israël hier matin alors qu'ils se trouvaient à bord du voilier Madeleine, parti d'Italie dans le but de briser le blocus à Gaza. Leur bateau a été arraisonné hier. Israël n'a pas précisé à quel endroit. L'ONG estime que c'était dans les eaux internationales. d'Israël. Le voilier, en tout cas, est depuis hier dans le port israélien d'Ashdod et les 12 militants en instance d'expulsion, donc s'ils signent les documents. Hier, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées partout en France, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nice ou encore Lille, pour leur apporter leur soutien. Quelques milliers à Paris, Ajra Mohammad, à l'appel de la gauche, place de la République.
Ça faisait longtemps que Nathanaël n'avait pas vu autant de monde réunis pour Gaza à Paris.
Et ça fait du bien de voir autant de monde.
Ce jeune militant de la France Insoumise est persuadé que l'interception du bateau avec ses activistes à bord a remobilisé les troupes et prouvé aussi, selon lui, les véritables intentions du gouvernement israélien.
Il y a eu une médiatisation justement pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe, pour montrer que Israël ne veut pas qu'on apporte de l'aide humanitaire à Gaza. Je pense que oui, la mission est réussie sur ce point-là.
Il écrit quoi sur votre pancarte, vous ?
Vous coupez sa voix au Madeleine, on sera sa voix.
Marion et Malo, étudiants tous les deux, ont suivi le périple du Madeleine ces derniers jours via les réseaux sociaux.
Moi, je ne sais pas si c'est la com du bateau qui a marché, mais j'ai l'impression que ça crée une réalité plus physique de voir qu'il y a des gens connus qui y vont. Qui peut-être prennent des risques. Ça fait que pour les manifestants, ils s'associent à des idoles et qui vont les soutenir.
Les idoles, c'est qui pour vous ?
Rima Hassan et Greta Thunberg.
Je pense que c'est vraiment important d'avoir des bonnes actions symboliques comme ça, notamment à travers des personnages connus pour un peu relancer la lutte pour la Palestine et relancer le mouvement des manifestations et ça a l'air de marcher, donc tant mieux.
Avec un regret pour ces jeunes manifestants, le manque d'un soutien franc de la part du président Macron à l'équipage du navire intercepté.
Emmanuel Macron qui a demandé hier le retour en France dans les plus brefs délais des 6 Français concernés et qui a redit hier que le blocus humanitaire à Gaza était une honte et un scandale. Gaza où l'hôpital Al-Amal est pratiquement hors service, c'est ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS parle aussi de graves pénuries de médicaments après 2 mois de blocus total. Et puis encore des morts hier près d'un centre de distribution d'aide. Selon la défense civile de Gaza, 10 de Palestiniens ont été tués alors qu'ils tentaient d'accéder au centre. L'armée israélienne dit avoir tiré des coups de semonce en direction de suspects.
Il est 7h07, 20 mesures, Anaïs, pour une transition agricole et alimentaire de grande ampleur.
C'est ce que propose l'association de défense des animaux L214 dans un rapport choc dévoilé ce matin. Elle qui milite pour l'abandon pur et simple de la viande veut arriver à réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour notre alimentation dans les 5 ans. L214 suggère donc un moratoire sur les élevages qui privent les bêtes d'accès au plein air ou encore de réorienter les subventions à l'élevage intensif vers les productions végétales. Et surtout, elle estime, Marianne El-Kurdi, que les Français mangent trop de viande.
Plus d'1,2 milliard d'animaux terrestres sont tués chaque année pour l'alimentation des Français, souligne le rapport. L214 rappelle que nous consommons 2 fois plus de viande que la moyenne mondiale et 6 fois moins de légumineuses. Brigitte Gauthière est cofondatrice de l'association.
On est en situation de consommation massive de produits d'origine animale qui nous crée aussi des problèmes de santé. On peut parler de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers, etc. Donc ce sont des enjeux très forts, aussi bien pour les animaux que pour les êtres humains ou notre environnement.
Réduire de moitié le nombre d'animaux tués d'ici 2030. Derrière cette ambition, L214 ne cache pas son objectif à terme, la disparition des élevages pour mettre fin, je cite, à la souffrance animale. Proposition radicale selon Hélène Bombard, éleveuse de poulets dans la Drôme.
On sait tous qu'il ne faut pas manger 2 fois par jour de la viande, il ne faut pas manger que de la viande rouge. Autant on est capable de discuter avec des associations sur le bien-être animal, pourquoi pas. Avec une association comme L214, c'est même pas la peine de discuter. Parce que leur objectif, c'est pas le bien-être animal, c'est la disparition de mon métier.
Son combat, elle, la mise en valeur des productions locales, sachant que près d'un poulet sur 2 consommé en France est importé.
Il ne souhaite pas qu'il y ait une autre dissolution de l'Assemblée nationale, mais il ne l'exclut pas complètement non plus. Emmanuel Macron, interrogé hier à Nice, 1 an après cette dissolution, pas comprise, dit-il, par les Français. Le président de la République renvoie la balle aux formations politiques ailleurs. Elles apprennent à travailler ensemble pour être dans l'action, précision, dans une demi-heure. Ils ont marché côte à côte dans les rues de Villeurbanne hier, quelques centaines de catholiques, musulmans et juifs qui ont voulu témoigner de leur vivre ensemble quelques jours après l'incendie l'incendie d'un Coran dans une mosquée de la ville. Initiative lancée par des citoyens et des responsables religieux locaux. La marche a relié trois lieux de culte de Villeurbanne, église, synagogue et mosquée. Et alors que s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris le procès de 16 militants d'ultra-droite accusés d'avoir planifié des actions violentes contre des musulmans, ils se sont retrouvés au sein du groupe Action des forces opérationnelles qui prévoyait par exemple d'empoisonner de la nourriture halal au cyanure dans les rayons des supermarchés. On y revient dans une heure. Lui devra rendre des comptes devant les députés. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, auditionné ce soir à l'Assemblée nationale après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. La commission des lois veut faire la lumière sur le dispositif déployé et ce qu'elle appelle les graves dysfonctionnements. Emmanuel Leclerc.
Mes collègues de brigade anticriminalité de banlieue ne comprennent toujours pas pourquoi ils n'ont pas été envoyés sur Paris. Confie à un policier délégué syndical, ils se sont retrouvés à faire des broutilles alors qu'ils avaient été réquisitionnés pour empêcher justement ce qui s'est passé, que des bandes de jeunes de quartier qu'ils ne connaissent que trop bien déferlent, profitent de l'effet de masse et se croient tout permis. Et ce même délégué syndical d'affirmer que l'on a encore, comme au Stade de France il y a 3 ans, trop privilégié sur le terrain des policiers et gendarmes lourdement équipés au détriment d'unités d'intervention bien plus rapides quand il faut interpeller les meneurs les plus violents. Ce soir, Laurent Nunez devrait reconnaître, selon nos informations, que ces troupes n'ont effectivement pas réussi à coincer ceux qui ont barricadé le périphérique et l'avenue de la Grande Armée près de l'Arc de Triomphe, mais que ce ne serait pas parce qu'il manquait au final 2 brigades anticriminalité, mais parce qu'en face, ils étaient plusieurs milliers au total sur les Champs-Élysées et ailleurs, hyper mobiles, souvent en scooter. Les forces de l'ordre, selon l'entourage du préfet de police, ont d'ailleurs dû gérer des rodéos spectaculaires en plein Paris, loin des caméras et sans qu'il y ait le moindre drame.
Précision signée Emmanuel Leclerc.
Le football professionnel dans la ligne de mire aussi du Sénat.
Oui, qui examine aujourd'hui un texte de loi en première lecture sur le sport professionnel. Texte qui veut répondre au dysfonctionnement du football professionnel traversé par la crise des droits télé et qui propose par exemple aux fédérations de pouvoir retirer leur pouvoir aux ligues. Et puis toujours en sport, les amoureux de cyclisme vont suivre cette journée bien particulière sur le critérium du Dauphiné car la star du jour c'est Romain Bardet à 34 ans, celui qui dispute la dernière course de sa carrière s'élancera de chez lui. Départ de cette 3e étape à Brioude, là où il a grandi et découvert le cyclisme. Un bel hommage se prépare pour celui qui a occupé le devant de la scène durant près de 14 ans. Une page du cyclisme tricolore se tourne, Fanny Lechevestrier.
Et dès hier à Issoire, à l'arrivée de la 2e étape à une 20aine de kilomètres de Brioude, les fans du champion auvergnat étaient rassemblés en nombre autour du quart de son équipe.
Ouais, il y a un peu d'émotion quand même. C'est un coureur qui nous a fait vibrer pendant toutes ces années. C'est un coureur simple, qui fait pas de frasques, qui est pas exubérant et qui a des valeurs auvergnates et qu'on retrouve dans sa façon de courir.
Dans la région ici, c'était une icône et donc je pense qu'il va manquer à beaucoup de gens.
J'ai envie de lui dire merci.
Poser une demi-journée en congé pour aller le voir jusqu'au bout.
À Brioude, où les fans aux initiales du coureur sont de sortie. Une exposition photo lui est aussi dédiée. Et l'école de cyclisme Brivadois sera à ses côtés au départ. Forcément un moment émouvant pour l'enfant du pays.
Je suis licencié au club depuis 25 ans maintenant. Et j'y suis retourné mercredi rouler avec les jeunes parce que mon père encadre. Les bénévoles, c'était les mêmes qui m'encadraient aussi. Donc voilà, c'est l'essence du vélo. Et de retourner là pour ma dernière grande course, c'est un joli clin d'œil.
L'émotion, on la sent aussi au sein du peloton. Il suffit de voir les gestes d'attention depuis dimanche de Pogacar au Van Der Poel. Les éloges de Guillaume Martin Guyonnet.
Bah, c'est un monument du cyclisme français.
À Aurélien Paré, peintre qui en a fait son modèle.
On a toujours cet héritage dans l'équipe de Romain, que ce soit les stages, la nutrition, des choses qu'il maîtrisait lui-même avant d'instaurer dans l'équipe.
La marque des plus grands champions.
Reportage de Fanny Lechevestrier. La 3e étape du Critérium du Dauphiné s'élance donc à midi, 207 km au programme.
Merci Anaïs Feuga. Et tout de suite le Zoom. Comment va Mayotte 6 mois après Chido, le cyclone destructeur? Le bilan officiel de la catastrophe fait état de 40 morts et 40 disparus, près de 6000 blessés. Le 101e département français peine à s'en remettre. Les dégâts matériels dépassent le milliard d'euros. Plus difficile à chiffrer, les dégâts sur l'environnement de l'île, alors que c'est sa principale richesse. Béatrice Duguay, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez, Béatrice, de Mayotte. Alors, comment la faune et la flore se portent-elles?
Le vert, la couleur, est de retour à Mayotte. Pourtant...
J'ai quand même discuté avec quelques Mahorais qui ont pleuré en ne reconnaissant plus leur chant, en fait.
pendant des mois, on était perdus. Hein. C'est un traumatisme pour la plupart des Mahorais. Hein.
La nature qui repart est trompeuse, donc. Nous sommes près du lac Cariani, dans le centre de l'île, avec Émilien Dautray, directeur du GEPOMAI, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. Les cocotiers sont scalpés, les canneliers, les arbres à cannelle, par terre. Les ylangs, eux, ont résisté et ils ont retrouvé des feuilles, mais...
On voit bien le ciel alors qu'avant, on ne voyait pas le ciel quand on était ici. C'est quasiment que des troncs, en fait. Toutes les branches ont été balayées par le cyclone. On ne savait pas s'ils allaient repartir. Puis finalement, ils repartent de façon très étrange, puisque les feuilles sont directement sur les troncs. A priori, des branches vont repousser, mais c'est une forêt, on voit, qui est handicapée. Ouais. Et là, en fait, il y a des troncs partout sur le sol, mais on ne les voit plus parce qu'elles ont été recouvertes par les espèces herbacées et les lianes.
Des lianes envahissantes, pour certaines, qui menacent la repousse des arbres. La forêt à Mayotte, c'est le château d'eau et le climatiseur de l'île. Quant à la mangrove, les palétuviers servent de nichoir et de rempart. Or, là aussi, il y a du dégât, constate Juliette Crouzet de l'Association des naturalistes de Mayotte. Par exemple, le quartier Ngombani, à Mamoudzou, en bordure de route.
Ah là, c'est très, très endommagé. Les branches cassées au milieu, les arbres sont encore cassés en deux, ils n'ont toujours pas de feuilles et tous les déchets en arrière, les bouteilles en plastique. De voir l'état comme ça, puis qu'on ne sait pas si ça repartira complètement ou pas. Ça montre peut-être le rôle protecteur qu'elle a eu aussi, se dire qu'elle nous a vraiment protégés. C'est sacrifié, elle a fait barrière. S'il n'y a pas eu cette mangrove, il y aurait eu des très grosses vagues qui, je pense, seraient arrivées directement en ville et ça aurait pu être encore bien pire.
On peut replanter une mangrove ?
Il y a des projets de replantation où certains font des pépinières et ils replantent. Le mieux, c'est de laisser faire la nature. Parce qu'on a 7 espèces de palétuviers différents à Mayotte et chacun va être adapté à certaines conditions. Voilà, on a des choses, on ne peut pas juste prendre un arbre n'importe lequel et le planter à cet endroit-là.
La mangrove est vraiment très endommagée dans le nord, en meilleur état dans le sud. Elle qui évite aussi au lagon de s'envaser.
Le lagon, justement, lui aussi a pris Chido de plein fouet, Béatrice.
Les vagues de 9 mètres ont dévasté les coraux. François Elipotz de l'Association de protection de l'environnement Oulanga Nanyamba n'a trouvé que récemment le courage d'aller voir.
Sur les récifs de l'Est, c'est gris, c'est soufflé. On voit quand même des petits bourgeonnements. Donc on sait que ça va reprendre, mais quand on connaît la croissance des coraux, que ça met plusieurs dizaines d'années pour faire quelques centimètres, on sait que ça va prendre du temps.
Il faudra du temps aussi pour reconstituer les herbiers qui nourrissent les dugongs et les tortues.
Au milieu, là on voit très bien, on a la trace de la queue. L'apex de la queue voilà, fait le petit trou quand la tortue se pose, donc il y a tout le poids de la tortue.
3000 tortues pondent toute l'année à Mayotte, notamment sur cette plage de la Moya à Petite Terre, chamboulée comme beaucoup d'autres par le cyclone.
Il y a des dunes de sable qui se sont formées, c'est surtout dans le nord. On a vu quand même des grosses dunes de sable où les tortues venaient. Elles sont capables de gravir 15 mètres de hauteur en plus pour venir pondre. Mais c'est du sédiment qui n'est plus le même. Est-ce que c'est des conditions propices au développement des embryons? Ça, on ne sait pas. Ouais.
Les scientifiques et les services de l'État observent de près cette nature qui donne donc des signes de résilience. Le milieu économique aussi, car Florian Amardeil, restaurateur à Mamoudzou, le sait. L'environnement, c'est la ressource de l'île.
Il y a beaucoup de fonctionnaires qui voient beaucoup de misère, beaucoup de choses difficiles, que ce soit au CHM ou dans la police notamment. Et ce qui les fait tenir ici Mayotte, c'est d'avoir la chance de pouvoir aller sur un des plus beaux lagons du monde pour aller voir les baleines et les dauphins. Et aujourd'hui, voilà, sans ces activités-là, ça va être très difficile de renouveler le contingent de professeurs, de médecins, d'infirmiers, de magistrats et tout ça.
Tous les acteurs de l'île attendent donc du projet de loi de reconstruction de Mayotte un soutien conséquent à l'environnement.
Merci Béatrice Duguay. On vous retrouve dans le journal de 8h. Vous nous raconterez qu'il est encore difficile de trouver des produits frais à Mayotte.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Ah, je sais pas.
Mer ou montagne?
Aucune idée.
Volkswagen ou...
Volkswagen.
J'ai pas dit la fin.
Ah mais Volkswagen, oui.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Roc à partir de 169 € par mois. Pour l'achat d'un T-Roc VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4 000 €, puis 36 loyers de 169 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a?
Une photo loupée. Les bougies sont déjà soufflées.
Ok. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo de l'iPhone 16, accédez à la caméra en un temps record.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez de 200 € de remise minimum sur l'iPhone 16 grâce au forfait 150 Go et plus. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Forfait Bouygues Télécom à partir de 35,99 € par mois, engagement 24 mois, soit 242 € au lieu de 442 € après remboursement et reprise de votre mobile. Conditions en boutique.
7h19.
France Inter. Nicolas Demorand.
Le 7-10.
Et à suivre dans les minutes qui viennent, oui. Aline Afanoukoé et Dove Alphon. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Hola Nicolas.
Dove, en toute subjectivité.
La fermeture du centre Pompidou pour travaux entraîne des anxiétés, Nicolas.
Musique Aline.
24 ans d'attente pour écouter le nouvel album de Pulp.
Formidable, alors que moi je vais vous parler d'autre chose, alors que les tensions restent vives à Los Angeles, on l'a entendu dans le journal de 7 heures. J'aimerais pousser avec vous les portes du Butterworth. C'est un très chic restaurant de Washington. Pour le dire vite, la déco est d'inspiration française. Une sorte de bistrot décontracté, sans nappe sur les tables. Et le chef cuisinier aimerait que l'établissement ait ce cachet, cet esprit qui définirait, nous dit le New York Times, un deux magots sur Potomac, du nom du mythique café parisien et du fleuve qui parcourt la ville. Voilà pour l'ambiance, mais c'est la clientèle qui est intéressante. Le Butterworth est le QG de l'élite trumpienne, parlementaire, haut fonctionnaire, membre des cercles de réflexion et des médias MAGA. L'idéologue Steve Bannon, en rupture de banc avec le président, y a sa table, il se prête au jeu des selfies, il aime la cuisine sans chichi et crie « os à moelle » aux reporters du New York Times pour bien se faire comprendre. Le patron du resto eut dans une vie antérieure des responsabilités politiques en Grande-Bretagne dans le camp du Brexit. Aujourd'hui, il demande discrètement aux clients qui entrent dans l'établissement avec une casquette rouge MAGA de bien vouloir l'enlever. Ces démonstrations sont inutiles dans un établissement où l'on est entre soi. Le New York Times rappelle que chaque présidence eut à Washington ses restaurants favoris, ceux où il fallait se montrer et être vu. Et le Butterworth marque une forme de normalisation du trumpisme. Problème, la ville a voté à plus de 90% pour Kamala Harris, ce qui complique un poil le modèle économique du restaurant, où même en cuisine, on parle plus politique, que bonne bouffe épinard. En toute subjectivité, Dove Alphon du quotidien Libération. Dove, à Paris, le centre Pompidou va fermer ses portes pour au moins 5 ans de rénovation. Les commerçants et les riverains sont inquiets et ça vous a rappelé quelque chose.
Oui Nicolas, c'est le quatrième monument le plus visité de la capitale. 3 200 000 visiteurs par an, bien au-dessus de l'Arc de Triomphe par exemple. Et donc forcément, ça va laisser un vide. Beaubourg, comme bien des Parisiens continuent d'appeler le musée d'art contemporain, va fermer pour des travaux qui pourraient durer bien plus que les 5 ans annoncés. Les voisins ne sont pas contents et on les comprend. Dans Libération, mais aussi dans Le Parisien, dans Le Monde, on a pu lire des citations qui démontrent bien l'anxiété des commerçants et le déboussolement des habitants. Seulement voilà, pour ceux qui aiment les archives de ces journaux, tout ceci n'est pas très nouveau, car c'est la même anxiété et le même déboussolement que reflétaient les riverains à la veille de l'ouverture, le 2 février 1977. C'est pas super et puis ça ne va pas avec le quartier, disaient les uns. Ça va devenir un éléphant blanc, ça va faire fuir les touristes, disaient les autres. On remarquera que ce qu'on appelait encore les garçons de café sont les plus remontés, il y a 50 ans comme aujourd'hui. Qui voudrait s'installer en terrasse face à cette horreur, demandait un serveur du café Beaubourg, tandis que dans le restaurant voisin, on s'inquiétait du départ des ouvriers qui remplissaient les tables à midi et maintenant va savoir. Comme des centaines d'ouvriers, Nicolas, vont maintenant revenir sur les lieux du crime, on aura enfin la réponse à cette question. Mais les cafetiers dubitatifs ne sont rien par rapport aux intellectuels furieux, qui étaient bien plus nombreux. Dans Le Figaro, Jean Dormesson dénonce, je cite, « une usine ». Un paquebot, une raffinerie, une espèce d'écorché monstrueux et multicolore. Tandis que dans Le Monde, l'universitaire Jean Paris fustige, je cite, « l'anthologie même de la hideur, que les bonnes gens vont prendre pour des échafaudages ». Ah, les bonnes gens, Nicolas, il n'y a que ça de vrai.
Et les touristes, Dove, que feront-ils à votre avis pendant la fermeture?
Eh bien, les fameux tuyaux multicolores de Beaubourg sont irrésistibles pour un selfie, Nicolas, et les touristes continueront donc de venir, je pense, même face à un musée fermé. On l'a échappé belle d'ailleurs, puisque le président Pompidou avait demandé aux architectes de songer à remplacer ses couleurs criardes en pastel. Et son successeur, Valéry Giscard d'Estaing, songea à annuler le projet si on ne trouvait pas moyen de faire entrer toute cette tuyauterie à l'intérieur du bâtiment. Nous avons l'exemple de la fermeture de Notre-Dame, où on a continué à photographier pour Instagram le chantier de Notre-Dame avec la même ferveur que la cathédrale même. Car ce n'est pas Beaubourg ou Notre-Dame que nous cherchons à éterniser, mais notre existence bien trop fugace avec tuyaux ou non.
Merci Dovalfon et à mardi prochain.
Le 7-10 sur France Inter.
Allez à nous, Aline.
Hola a todos.
Pulp, le groupe de rock britannique créé par Jarvis Cocker en 1978, revient avec More, premier album depuis 24 ans, en haute définition dans musique, Aline.
Ce huitième album a été conçu en trois semaines par le noyau dur de Pulp, issu de la scène Britpop du milieu des années 90, originaire du nord de l'Angleterre. C'est le premier album de Pulp depuis We Love Life en 2001. Et voilà ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Well, it happened years ago. When you lived on Stanhope Road. We listened to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her. All right. 1994, avec leur quatrième album, His and Hers, Pulp devient incontournable pendant que la guerre fait rage entre Oasis et Blur. Eh bien, Pulp prend de la hauteur et s'impose comme si tout ce que le groupe avait expérimenté auparavant était parfaitement en place, à commencer par la voix charismatique de Jarvis Cocker. Love. Got to have love, j'adore. Comme une envie brutale et urgente d'hurler ce besoin vital d'amour, la sensation de saisir la vie par le revers et en abondance, mort. Plus, less is more. C'est vrai ici, Nicolas.
Et de quoi parle l'album ?
Eh bien, c'est une prise de conscience. Je suppose, dit Jarvis Cocker, que c'était le début de ma tentative d'accepter mes sentiments. Les chansons de mort évoquent le désir, la dérive des relations, l'angoisse de la parentalité, le sentiment d'appartenance à des lieux et à des personnes. Et Pulp tient à informer l'auditeur, aucune IA n'a été impliquée dans le processus. Now I stalk the labyrinth of my own myth, searching for clues with this faded glow stick. L'album est dédié à Steve McKay, le bassiste de Pulp, décédé au printemps 2023. Quand des proches disparaissent, on réalise qu'on est toujours en vie et qu'on a encore la possibilité de créer, conclut Jarvis Cocker. Mort en est la parfaite illustration.
Et ce nouvel album de Pulp est déjà disponible. C'est un partenariat France Inter. Merci Aline. Merci. La météo à suivre, Marie-Pierre Planchon est là.
Livre Inter 2025, un perdant magnifique de Florence Sévos. Par les yeux d'une adolescente, le lien inoubliable avec son beau-père fantasque, excessif, mais qui a su les aimer, sa sœur et elle.
À l'âge où on est vulnérable, quand un adulte pose un regard sur vous, je te vois comme tu es, je te reconnais en quelque sorte, c'est infiniment précieux.
Les jurés du Livre Inter ont été touchés au cœur par la beauté de la langue, la subtilité des sentiments. Un livre qui nous parle. Un perdant magnifique de Florence Sévos, Livre Inter 2025.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique ? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places ? Un loyer attractif ? Et pourquoi pas une Mercedes ? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line dès 399 € par mois.
Location longue durée 37 mois 45 000 km. Premier loyer de 399 €, bonus écologique de 2 000 € déduits si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Et le soleil, Marie-Pierre, s'impose sur pratiquement tout le pays.
Et oui, Nicolas, une fois n'est pas coutume, nous sommes cernés par deux anticyclones qui dégagent bien le ciel, à l'exception des régions proches de la Manche, où le flux océanique ramène donc cette humidité. Des côtes bretonnes au Cap Griné, aux Ardennes, avec parfois des brouillards, des côtes d'Armor au Cotentin, ces nuages seront encore plus nombreux. Cet après-midi, poussé par un bon vent d'ouest, de la Normandie à l'Île-de-France, le ciel va se voiler un petit peu, mais ça va rester lumineux et toutes les autres régions, ce sera une journée estivale. Et avec, comme en été, des petits bourgeonnements sur le relief alpin et les Pyrénées, avec peut-être même des orages qui pourraient éclater sur la chaîne pyrénéenne.
Et il fait encore frais pour la saison dans le nord.
Oui, actuellement, vous avez seulement 4 degrés à Mourmelon, dans la Marne ou dans le Bas-Rhin, contraste avec les 23 à Valbonne dans les Alpes-Maritimes. Il fait 6 dans les Ardennes, 7 à Nevers et à Brest, 14 à Prairie. Et cet après-midi, on va observer le même contraste nord-sud, avec seulement 18 à Calais, 19 à Dieppe, 20 à Lille, mais 35 à Albi, 33 à Nîmes, vous aurez 19 à Cherbourg, 25 à Paris et 30 à Auxerre.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 7h30. Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Concurrents et mobilisés, chacun de leur côté. Taxi et VTC vont tous manifester aujourd'hui. Les chauffeurs Uber, devenus bien trop nombreux par rapport à la demande, eux-mêmes le reconnaissent, témoignage dans ce journal. En Israël, du bateau à l'avion en quelques heures. Les militants du navire pour Gaza transférés cette nuit à l'aéroport de Tel Aviv. Mais certains refuseraient leur expulsion. Nos informations à suivre. Et à 7h50, Nicolas.
Avec Sonia De Villers, Ehud Olmert, ancien Premier ministre d'Israël.
À suivre aussi la lassitude des civils ukrainiens du Donbass, à nouveau contraints d'évacuer. Une nouvelle dissolution, Emmanuel Macron ne la souhaite pas, mais ne l'exclut pas non plus. Et puis la saga Dune, de retour en jeu vidéo.
France Inter.
À leur tour de se mobiliser dans le viseur des taxis qui manifestent déjà depuis des semaines, les chauffeurs VTC veulent eux aussi se rappeler aux bons souvenirs du gouvernement. Appel à la grève illimitée à partir d'aujourd'hui et opération escargot prévue à Bordeaux, Lyon, Montpellier ou Paris. Au cœur des revendications, leurs revenus en chute libre car il y a trop de VTC en circulation. Ils réclament donc un moratoire et pointent les nouvelles stratégies des plateformes. Sophia Berada a rencontré l'un de ces chauffeurs.
Lorsqu'il est devenu chauffeur VTC, Vincent ne travaillait que pour Uber. Il a maintenant plus de 4 applis différentes.
C'est le seul moyen d'arriver à s'en sortir aujourd'hui. Et même comme ça, c'est extrêmement difficile.
Son chiffre d'affaires a diminué de moitié en 3 ans. Comme d'autres, beaucoup sont passés de 1 500 € à moins de 700 € la semaine. Selon Vincent, c'est parce que le nombre de chauffeurs a explosé.
Ah, voyez.
Uber lui propose un trajet à 19 €
pour 20 km de course. Et je rappelle que le 1 € le kilomètre, c'est censé être le tarif minimum.
Vincent refuse la course, mais un autre VTC l'accepte.
Le chauffeur qui n'a pas fait assez de chiffres, il faut bien qu'il paye son loyer, qu'il nourrisse ses enfants. Donc à un moment ou à un autre, il va accepter de travailler à perte.
Cela a poussé Vincent à s'investir à l'Union des indépendants. Son syndicat réprouve les formations à 20 € proposées par les plateformes.
Bah, c'est honteux parce que ça participe à saturer le marché.
Il dénonce aussi le recours aux gestionnaires de flotte, des petites entreprises censées faciliter l'inscription de nouveaux chauffeurs sur les plateformes, quitte, dit-il, à tricher parfois.
Il y a des faux documents.
Quoi comme genre de documents?
Des fausses cartes professionnelles. J'ai vu des chauffeurs effectivement qui roulaient sans permis.
Contacté la plus grosse entreprise du secteur, Uber dit être pleinement mobilisé dans le combat contre la fraude et recruté de façon proportionnelle à la demande.
Les taxis, eux, ne désarment pas contre les nouvelles règles du transport sanitaire imposées par l'assurance maladie. Ils doivent à nouveau converger aujourd'hui vers Paris pour manifester sous les fenêtres du ministère de l'économie. Alors que le gouvernement planche sur le prochain budget de tous les dangers, qu'il faudra tenter de faire voter par une assemblée plus divisée que jamais, conséquence de la dissolution il y a un an, une décision qui n'a pas eu l'effet escompté par le président. Depuis, le pays tourne au ralenti. Alors Emmanuel Macron pourrait-il renouveler l'expérience en mode on efface tout et on recommence? Il a répondu lui-même à la question hier soir en marge du sommet de Nice sur l'océan. Julien Nenni.
C'est une confidence qu'Emmanuel Macron avait jusqu'ici réservée à ses alliés dans un cadre privé. Le mois dernier, par exemple, auprès de députés Horizon, puis Modem, reçus à l'Élysée, le président l'avait assuré « Non, bien sûr, disait-il, je ne vais pas à nouveau dissoudre l'Assemblée ». Hier soir à Nice, pour la première fois, le chef de l'État l'assume publiquement.
Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution.
Mais, car il y a toujours un mais...
Mais si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation où je dois utiliser la Constitution.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, théorisait Jacques Chirac, dont une statue trône dans le centre de Nice et qui lui aussi avait raté sa dissolution en son temps. Un an après la sienne, Emmanuel Macron, lui, fait mine de s'interroger.
Est-ce que je pense qu'elle a été comprise ? Et est-ce que je pense qu'elle a permis de clarifier les choses ? Non.
Pour mieux fustiger l'attitude des partis à l'Assemblée.
Maintenant, le pouvoir est au Parlement. Mais vous savez quoi ? C'est aux formations politiques qui, au Parlement, sont là de travailler ensemble pour faire avancer le pays. Ce serait un peu facile de reprocher au président de la République et le vote des Français et l'immobilisme des formations politiques dont certaines ont été expliquées que le président avait trop de pouvoir ou qu'il fallait faire ceci ou cela. C'est ça une démocratie.
Mer Méditerranée dans le dos, Emmanuel Macron conclut en prenant date.
Je ne lâche aucun combat et je n'en lâcherai aucun.
Comme pour se persuader qu'un an après la dissolution, rien n'avait changé pour lui, ou presque.
Lui va devoir s'expliquer sur les nombreuses violences du 31 mai dans la capitale en marge de la finale de la Ligue des Champions. Le préfet de police de Paris, auditionné ce soir par la commission des lois à l'Assemblée. Pour Laurent Nunez, le dispositif de sécurité mis en œuvre ce soir-là n'a été ni une réussite ni un échec. La mobilisation de 5000 policiers et gendarmes n'a toutefois pas permis d'éviter de graves dégradations, des pillages sur les Champs-Élysées ou encore le blocage du périphérique. Deux pompiers recherchaient ce matin dans l'Aisne, ensevelis sous les décombres d'un immeuble en feu dans le centre-ville de Laon. Le bâtiment s'est effondré hier soir en pleine intervention des secours. Des milliers de manifestants dans une centaine de villes françaises hier soir à l'appel de LFI pour soutenir les militants du bateau pour Gaza, dont l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Où sont-ils ce matin ? Le voilier dérouté par Israël est arrivé dans la soirée dans le port d'Ashdod. Ses occupants directement transféré à l'aéroport de Tel Aviv pour être expulsé. Mais Thibault Lefèvre, bonjour, en direct de Jérusalem. Bonjour. Thibault, certains d'entre eux refuseraient ce matin de partir.
Oui, alors ce que l'on sait ce matin, c'est qu'ils ont tous vu un avocat et seraient donc au moins 7 à avoir pour le moment refusé leur expulsion d'Israël. Information transmise il y a quelques heures par une source proche de la défense de 11 des 12 militants. Pas de confirmation pour le moment des autorités de l'État hébreu ni des autorités consulaires. La situation peut donc évoluer. 4 des 6 Français sont concernés, dont l'eurodéputée Rima Hassan. Ce n'est pas le cas selon le document consulté de Greta Thunberg, qui pourrait quitter le sol israélien, vraisemblablement en avion, malgré ses engagements pour la défense de la planète. Elle devrait rester dans une prison de l'aéroport avant d'être expulsée avec 2 autres membres de l'équipage, dont le médecin français Baptiste André. Pour les autres, dont Rima Hassan, il pourrait être transféré dans la prison de Givon, c'est au centre du pays. Il serait alors présenté à un juge, aurait la possibilité de faire appel, mais devrait rester en détention le temps de la procédure.
Thibault Lefèvre, France Inter à Jérusalem. Aux États-Unis, 4e soirée de face-à-face tendue à Los Angeles entre les forces de l'ordre et les manifestants hostiles aux expulsions de migrants. Donald Trump opte pour la surenchère en envoyant cette nuit 2000 réservistes supplémentaires de la garde nationale en Californie et en mobilisant pour la première fois l'armée d'active avec le déploiement de 700 Marines, décision exceptionnelle sur le territoire national, complètement disproportionnée selon les autorités locales californiennes qui parlent de troubles pour l'instant limité à quelques rues. Nous serons en direct de Los Angeles dans le journal de 8h. L'Ukraine a subi cette nuit de nouvelles attaques aériennes massives de la Russie, notamment sur la capitale Kiev et sur Odessa dans le sud où elles ont fait un mort et visé aussi une maternité selon le gouverneur. La Russie qui continue de grignoter du terrain dans l'est et dans les villages du Donbass, encore sous contrôle ukrainien, des habitants rechignent à évacuer. C'est le reportage grand format dans la région de Kostantinivka où la ligne de front se rapproche de jour en jour d'Agathe Mahuet.
À Oleksiyevo-Drouchkivka, les policiers et les équipes de secours passent dans les maisons depuis plusieurs jours pour dire qu'il faut évacuer. Mais Natalia, qui tient l'épicerie du village, reste. Elle a envoyé sa fille de 9 ans avec la grand-mère à Kiev, à l'abri. Elle dit que pour l'heure, seule une frappe tout près de chez elle pourrait la faire fuir.
Nos valises sont prêtes, mais nous ne pouvons pas tout abandonner comme ça. L'épicerie, le chien, les deux chats.
6 km plus au sud, la ville de Kostiantynivka, qui comptait 15 000 habitants avant la guerre, est bombardée quotidiennement.
On espère encore que les Russes ne viendront pas jusque-là. Mais bien sûr, on sent que le front se rapproche. On entend désormais les frappes plus fort et plus souvent.
Victoria, qui travaille à l'usine, vient acheter des raviolis aux pommes de terre et champignons. Son fils Igor, qui l'accompagne, a 16 ans, est comme seul au monde dans ce village.
Mes amis sont tous partis. Je suis les cours en ligne. C'est assez angoissant à vivre, mais c'est comme ça.
Bien sûr qu'on va finir par partir, dit Victoria, la maman, mais ça coûte cher, rien que de se reloger. On n'a pas de solution.
Tout fait peur. Partir vers l'inconnu, ou rester ici, où rien n'est jamais calme. Mais ici, au moins, j'ai mon travail, ma maison. Donc, comme un sentiment de sécurité.
Elle réfléchit un moment avant de trancher avec un sourire triste. Je crois que le plus effrayant, c'est de tout quitter ici sans savoir où aller.
Agathe Mahuet dans le Donbass avec Hélène Langlois et l'aide de Yachar Fazilov. Le sort de la fast fashion entre les mains du Sénat. Il se prononce aujourd'hui sur la proposition de loi visant à encadrer la mode jetable, avec au menu notamment l'interdiction totale de la publicité pour des plateformes comme Shein ou Temu, un système de bonus-malus écologique, une obligation aussi de sensibiliser leurs clients sur l'impact environnemental de ces vêtements. Le traité pour protéger la haute mer pourrait-il finalement être ratifié avant la fin du sommet de l'ONU sur les océans à Nice? Il faut qu'au minimum 60 pays apposent leur signature. On en est ce matin à une cinquantaine selon les Nations Unies. Ça s'accélère subitement avec une vingtaine de ratifications ces toutes dernières heures.
Il est 7h40 et puis saviez-vous que la saga Dune était aussi une valeur sûre du jeu vidéo?
Oui, on connaît les livres de Frank Herbert, les deux films à succès de Denis Villeneuve sortis en 2021 et 2024, mais Dune a très tôt aussi inspiré les créateurs de jeux vidéo. Et la nouvelle version qui sort aujourd'hui sur PC, Dune Awakening, s'inscrit donc dans une longue lignée, Olivier Bénis.
En 1984, l'échec commercial du Dune de David Lynch enterre durablement toute adaptation au cinéma de l'œuvre de Frank Herbert. En jeu vidéo, c'est tout l'inverse. Dès 1992, le studio français Cryo Interactive développe sa version de Dune, inspirée par le film et les romans. En bon représentant de la French Touch, il expérimente tous azimuts, mélange jeu d'aventure et de stratégie, pour un résultat en avance sur son temps, mais pas autant que sa suite.
Dune, la bataille pour Arrakis.
Développé par les Américains de Westwood, ce jeu de stratégie en temps réel inventait presque toutes les règles du genre. Sans lui, pas de Command & Conquer ou de Warcraft. Il aura droit à un remake en 1998, une suite en 2001, puis plus rien, aucun jeu de Dune pendant 20 ans. Et c'est le cinéma qui à nouveau réveille le dormeur. En 2019, le producteur des nouveaux films lance 3 projets vidéoludiques, dont Spice Wars, un jeu de stratégie développé par le studio bordelais Shiro Games, et aujourd'hui Awakening, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. 60 ans après le premier livre, la planète Arrakis est encore un terrain de jeu particulièrement riche.
Dune Awakening, c'est donc aujourd'hui sur PC et très bientôt sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Merci Alexis Morel. À suivre, Patrick Cohen, Dominique Seux, Sonia De Villers.
Nectarine ou Brugnon?
Je sais pas.
Paréo ou Pentacourt?
Ah,
Volkswagen ou...
Volkswagen.
J'ai pas dit la fin.
Si, Volkswagen.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Cross à partir de 139 euros par mois. Pour l'achat d'un T-Cross VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 139 euros, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer.
Bouygues Télécom. Qu'est-ce qu'on a?
Une photo loupée. Les bougies sont déjà soufflées.
Ok. Avec la nouvelle commande de l'appareil photo de l'iPhone 16, accédez à la caméra en un temps record.
En ce moment chez Bouygues Télécom, profitez de 200 euros de remise minimum sur l'iPhone 16 grâce au forfait 150 Go et plus. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Forfait Bouygues Télécom à partir de 35,99€ par mois, engagement 24 mois, soit 242€ au lieu de 442€ après remboursement et reprise de votre mobile. Conditions en boutique.
Faire du travail une chance, c'est permettre à Farid de s'épanouir en développant régulièrement de nouvelles compétences.
Chez Actual, nous vous permettons de gagner en compétences grâce à nos formations professionnelles certifiantes. Parce que pour nous, le monde du travail doit être un monde plein de possibilités où l'on puisse évoluer, se réinventer et choisir son travail.
Actual, faire du travail une chance.
7h43.
Le 7-10 sur France Inter.
L'édito politique, Patrick Cohen. Pour l'anniversaire de sa victoire aux élections européennes, le Rassemblement national est revenu à ses fondamentaux.
L'immigration considérée comme une invasion, l'Europe dénoncée comme une dictature, l'Union vue par Marine Le Pen comme, je cite, un empire marchand, woke, ultralibéral, qui agit contre nos nations, notre histoire, nos traditions, qui met son énergie dans un projet de guerre programmé à l'Est. C'était hier dans un village du Loiret, à deux pas de Montargis, où entre deux champs de céréales, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient rassemblé leurs alliés européens du groupe des Patriotes pour l'Europe. Et voilà un moment que le RN avait réaffirmé avec autant de clarté sa ligne anti-européenne et ses solidarités à l'extrême droite. En janvier à Madrid, aux côtés des mêmes dirigeants, Marine Le Pen avait marqué ses distances avec leur enthousiasme trumpiste et le slogan choisi « Make Europe Great Again ». Rien de tout cela cette fois. « Nous sommes unis comme les doigts de la main », proclame la candidate, unis par une vision commune de la vie et du monde.
Et quelle est cette vision commune ?
Identitaire et anti-immigrée, obsession ressassée dans presque tous les discours, celui du Hongrois Viktor Orban, qui dénonce un échange organisé de populations pour remplacer le socle culturel de l'Europe. Par échange organisé, on reconnaît la théorie complotiste du grand remplacement. Celui de l'Italien Matteo Salvini, qui parle d'une invasion de clandestins principalement islamistes, financée et organisé encore, celui de l'Estonien Martin Helme qui dans son programme défend la remigration et affirme être nationaliste français veut dire que la France est dans vos os et que les os de vos ancêtres sont en France. Fin de citation. Au moins les dirigeants du RN présents à Mormant, le nom du village, ne pourront plus dire que l'extrême droite n'existe plus ou qu'ils ne savent pas ce que c'est. C'est leurs amis.
La dédiabolisation, Patrick, c'est fini.
Ah, disons qu'elle marque une pause après les révélations du média Les Jours qui a repéré 9 députés RN dans un groupe Facebook au contenu raciste et homophobe et celle de Libération ce matin qui, sur les 120 candidats qui s'étaient fait remarquer l'an dernier par leur saillie xénophobe, antisémite ou complotiste, a retrouvé près de 90 de ces brebis galeuses toujours membres du RN. Le grand ménage promis, comme après chaque élection depuis 15 ans, n'a pas été fait.
Et le RN pourrait en passer.
Pas dans l'immédiat. Le capital politique du RN, c'est sa radicalité, ses militants et même ses électeurs n'y vont pas pour entendre des propos menaçants sur les finances du pays ou des alertes sur l'état des océans. En revanche, son espoir de gouverner dépend de sa normalisation, ce qui en fait un parti écartelé entre sa volonté de se fondre dans le système, la stratégie de la cravate et sa nécessité de rester anti-système, laquelle l'a largement emporté hier au milieu des bottes de paille.
Patrick Cohen.
L'édito éco avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, en épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Dominique, ce matin, une information concernant le constructeur automobile Stellantis.
Oui, les échos révèlent que le pilotage de l'entreprise d'origine européenne se fera désormais à partir de Détroit. Aux États-Unis, décision prise par le tout nouveau patron, l'Italien Antonio Filosa. Bien sûr, il y aura sans cesse des mouvements entre les continents. Et bien sûr aussi, le siège du groupe reste aux Pays-Bas, mais ça n'est pas neutre. On le rappelle, Stellantis, un des 5 constructeurs du top automobile mondial, est issu de la fusion entre le français PSA, Peugeot Citroën, et l'italien Fiat. Le groupe compte 14 marques, avec Chrysler, Jeep, Opel, Maserati, Alfa Romeo, Dodge, etc., etc. L'Italien succède à l'emblématique Carlos Tavares, écarté en décembre pour management trop rugueux et divergences stratégiques sur la voiture électrique.
Alors pourquoi ce choix américain ?
Écoutez, voilà ce qui est dit. Filosa a dirigé ces derniers mois la branche américaine du groupe. Sa famille habite là-bas. Et il y a une troisième raison avancée, Carlos Tavares a payé de mauvais résultats sur les marques américaines du groupe. L'an dernier, les voitures s'entassaient sur les parkings des concessionnaires. Les prix n'étaient pas les bons. Bref, ça a flotté. Or, ce sont les États-Unis qui ont longtemps fait les bénéfices du groupe, 40% des chiffres d'affaires et 60% de la marge opérationnelle, d'où l'urgence de redresser. C'est le dossier prioritaire de Filosa et de John Elkann, le président italien du groupe, héritier de la famille Agnelli. Enfin, on imagine que Donald Trump appréciera que ce groupe mondial soit dirigé des États-Unis.
Mais il y a un mais.
Oui, ce pilotage américain n'est, on le disait, pas neutre du tout, notamment vu de France. Alors pourquoi ? Eh bien, le Portugais Carlos Tavares, diplômé de l'École centrale de Paris, avait redressé PSA et mis en œuvre la fusion avec Fiat. Il avait un attachement particulier à la France. Avec son départ, c'est l'Italien John Elkann qui a pris l'ascendant. Il est premier au capital avec 15%. Le choix de l'Italien Filosa, puis de sa résidence américaine, est une première pour un groupe automobile français. Formellement, les Peugeot plus l'État français détiennent eux aussi 15% du capital. Bon, en fait, 14%. Mais le sentiment qui domine est celui d'un déplacement, d'un vrai déplacement du centre de gravité pour... Justement, ne pas donner totalement cette impression, le nouveau DG a réservé son premier déplacement à Sochaux, c'était il y a quelques jours. En clair, en un mot, commençant, c'est tout de même historique pour Peugeot Citroën.
Et la preuve en est que...
Eh bien, Antonio Filosa pourra percevoir jusqu'à 23 millions de dollars par an si ses résultats sont très bons. Et il sera payé, je viens de le dire, en dollars.
Dominique Seux, merci.
France Inter. Le 7-10.
7h48, Sonia De Villers, vous avez rencontré Ehud Olmert, ancien Premier ministre d'Israël et maire de Jérusalem.
Et ancienne grande figure du Likoud, la droite israélienne, qui a lui-même mené une guerre très dure au Liban en 2006. Il a aujourd'hui 79 ans, invité exceptionnel de la Fondation Jean Jaurès à Paris. Nous l'avons rencontré hier après-midi.
On l'écoute.
Bonjour Ehud Olmert.
Bonjour.
Je cite vos mots. « La guerre que nous menons à présent à Gaza est une guerre de dévastation. Le massacre aveugle, cruel, sans limite aucune de la population civile. Ces violences résultent directement de la politique du gouvernement israélien, une politique irresponsable, intentionnellement meurtrière. Aujourd'hui, oui, Israël commet des crimes de guerre. » Ce sont vos mots, je l'ai dit, publiés dans Haaretz et maintenant dans Le Monde. Comment cette déclaration a-t-elle été reçue dans votre pays ?
Ça
ne m'a pas rendu très populaire. C'est clair qu'il y avait plusieurs qui ont été très fâchés avec moi. Mais il y en avait juste autant de personnes qui m'ont remercié et qui m'ont encouragé. Quand la guerre a commencé en octobre 2024, c'était la guerre la plus juste et la plus compréhensible. Il
n'y
avait pas une autre façon pour Israël à réagir à cette meurtre terrible menée par le Hamas. Tout le monde a soutenu la réponse israélienne. Toute l'année durée de cette guerre, moi j'ai défendu le gouvernement d'Israël et j'ai dit de façon très ferme qu'il n'y a pas une politique de crime de guerre et pas une politique de génocide. Jamais le chef de l'armée a donné un ordre de tuer des gens sans faire une différence. Mais à partir de mars 2025, cette guerre n'est pas acceptable, n'est pas légitime dans l'État d'Israël.
C'est mars 2025. Le changement mars 2025.
Oui, à partir de mars 2025, l'État d'Israël n'a pas respecté cet accord qui a pu permettre la libération d'autres otages. Et en Israël, il y en a un consensus presque. Que Netanyahou mène cette guerre pour des fins personnelles. Et c'est un crime. Ça, c'est un crime. Et c'est pour cela que, c'est de ça que je parle.
Donc Israël commet des crimes de guerre aujourd'hui.
Quand on mène une guerre de cette sorte,
c'est une guerre pas légitime. Une guerre pas légitime est un crime.
Dans son passage à Paris, le président Lula, lui, a dit qu'on assistait jour après jour à un génocide à Gaza. Vous continuez de réfuter l'accusation de génocide ?
Oui, absolument. Et je veux que ce soit très clair. Moi, je connais Lula, le président Lula de la dernière fois où il était président. Et je pense que c'est une faute
et
ça n'aide à rien de tirer cette discussion dans des extrémités qui ne sont pas justifiées, qui ne sont pas valables, qui ne sont pas justes. Il n'y a pas une politique de génocide, il n'y a pas de génocide.
Vous êtes rentré très jeune au Likoud, le grand parti de la droite israélienne. Vous avez été une figure de proue du Likoud. Je rappelle que Benjamin Netanyahou a lui-même dirigé ce parti. Quel regard vous portez sur l'évolution du Likoud? Quel regard vous portez sur la droite israélienne?
À Likoud,
le Likoud d'aujourd'hui, c'est un autre parti. Ce n'est pas par hasard qu'Arik Sharon et moi-même, nous avons quitté le Likoud. Et le Likoud, en quelque sorte, était un captif complètement par de forces fondamentalistes, messianiques, de droite. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, ils ont de plus en plus de contrôle sur le Likoud et ils ont tiré le Likoud vers l'extrême droite. Alors justement, ce Likoud qui aujourd'hui est totalement allié dans une coalition au pouvoir avec l'extrême droite vit une semaine décisive en Israël. C'est une semaine décisive pour la politique israélienne. Est-ce qu'à votre avis, les ultra-orthodoxes vont sortir de la coalition au pouvoir ?
Écoutez,
je ne sais pas si cela va arriver cette semaine, mais ça va arriver. Elle n'a pas d'avenir. J'aimerais aussi vous dire quelque chose. Il ne faut pas oublier que le Likoud fait moins d'un quart dans le sondage d'opinion publique en Israël. Ce n'est pas un parti de majorité. La plupart du public ne le soutient pas. Si il y avait aujourd'hui des élections, et j'espère que cela va arriver, le droite ne va pas gagner. L'État d'Israël, comme moi je le connais, c'est un État qui cherche des compromis, qui ne cherche pas de la vengeance, qui ne veut pas de tuer des Palestiniens, mais qui cherche de la sécurité pour l'État d'Israël, une possibilité de trouver des accords.
Olmert. Alors, Israël a annoncé la semaine dernière un projet d'expansion majeure de la colonisation en Cisjordanie occupée avec 22 nouvelles implantations. Est-ce que vous êtes toujours pour une solution à deux États? Et très concrètement, comment on peut procéder à la création d'un État palestinien avec l'État des colonies? Qu'est-ce qu'on fait des colonies? Quel est leur avenir?
Avant tout, il faut se rappeler quelque chose de très important, qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas au courant que ces dernières années, il y a une migration négative de juifs de la Cisjordanie. Plus de juifs quittent la Cisjordanie que ceux qui vont y habiter. Donc on sait que le public de colons, en partie, il y a une partie qui font des choses vraiment inacceptables aux palestiniens en Cisjordanie. Ils brûlent leurs maisons, leurs champs, ils font des choses très très sévères. Ce sont des crimes de guerre. Voilà, là sont des crimes de guerre qui sont faits sous le nez de la police israélienne et de l'armée israélienne. Le territoire occupé, et ça fait partie de ce que je venais de dire quand je parlais de crimes de guerre.
Emmanuel Macron estime que la création d'un État palestinien n'est pas seulement un devoir moral, mais une exigence politique. Est-ce que cette reconnaissance d'un État palestinien, selon vous, va avoir lieu? Est-ce que vous y êtes toujours favorable?
Comme vous comprenez, moi je le fais déjà depuis 20 ans, même avant que j'étais première ministre et quand j'étais première ministre. Et c'était notre politique du gouvernement d'Israël et de l'État d'Israël. Deux pays, l'État d'Israël et à côté d'elle, un État palestinien sur la base de frontières de 67. Malheureusement, quand moi j'ai présenté cette politique et quand j'ai fait cette proposition de paix aux Palestiniens, le président palestinien n'avait pas le courage, n'avait pas la vision, n'avait pas cette force pour signer. Mais nous et moi, je disais, monsieur le président Mahmoud Abbas, venez, on peut changer l'histoire. Il n'a jamais dit non. Mais il n'a pas dit oui, malheureusement.
Vous attendez toujours que l'administration de Donald Trump et Donald Trump lui-même permettent à la situation de basculer et de changer?
Moi, je pense qu'il veut de la paix. Je pense qu'il ne veut pas la guerre au Proche-Orient. Et je pense qu'il a une capacité d'influencer plus que personne d'autre. Et je vais me réjouir si Trump va inviter Netanyahou à la Maison Blanche, là, l'endroit où ils aiment tous les deux le plus que tout, d'être assis dans le bureau ovale devant les caméras, et qu'il va dire comme ça, Bibi, ça suffit, c'est fini, c'est la fin. Mais je pense, et je le dis tant que possible, que les efforts de Macron et les efforts qu'ils font d'autres dirigeants européens est très important, parce que c'est très important que Trump sache qu'il y a toute une enveloppe très vaste de soutien international dans l'idée d'une solution politique, l'arrêt de la guerre et deux États pour deux peuples.
Merci beaucoup, Ehud Olmert. Merci d'avoir accordé un entretien à France Inter.
Et merci à Mathias Volland pour la réalisation, à Lior Silberstein pour la traduction de cet entretien.
France Inter.
Mathieu Noël, en écoutant Ehud Olmert ce matin, vous vous dites que pour ramener la paix au Proche-Orient, il faudra plus que du courage.
Oui Nicolas, il faudra du génie. Heureusement, et c'est notre chance, Dominique Seux est de retour. Après avoir posé une demi-RTT hier, puisqu'il était avec nous, mais en duplex de sa gentilhommière normande, qui pourrait lui en vouloir, 700 mètres carrés de parquet pointe de Hongrie, ça demande de l'entretien. Dominique est physiquement de retour aujourd'hui, ce qui est une nouvelle formidable pour nos auditeurs en particulier, mais pour l'humanité en général, puisque dernièrement, à l'issue d'un de ses éditos, Aristote, Schopenhauer et Nietzsche sont enfin apparus pour ce qu'ils étaient vraiment, à savoir des nains de l'intelligence, à côté de Domi, dont cette citation rejoindra bien vite le fameux « Je pense donc je suis » de Descartes au Panthéon de la philo.
Si on était collectivement moins bêtes, on chercherait des idées intelligentes.
Élève de terminale qui nous écoutait, celle-ci, si vous la placez lundi prochain dans l'épreuve de philo, c'est la mention assurée. Bref, content de retrouver mon Domi, même si je le sentais préoccupé ce matin. Il n'avait pas cette bonhomie rieuse qui caractérise normalement le contribuable assujetti à l'IFI au lendemain d'un week-end de 3 jours en son domaine. Alors j'ai regardé par-dessus son épaule, et j'ai vu qu'il écrivait compulsivement dans un groupe WhatsApp intitulé, car les croyants ne manquent pas d'humour, Catogang, les copains de la paroisse. Enfin, compulsivement, il écrivait comme quelqu'un qui a appris à taper à deux doigts sur un Minitel, quoi. Quelle honte, Nous faire ça le jour de la Pentecôte en plus, j'espère qu'elle brûlera en enfer cette tepu émoji petit bonhomme avec de la fumée qui sort des narines. Au début, j'ai cru que Demi faisait référence à Sonia, qui hier, lundi de Pentecôte, avait invité Thomas Pesquet, un astronaute païen qui, c'est vrai, a beaucoup contribué à colporter l'idée fausse que la Terre est ronde.
C'est ridicule.
Bah oui, on tomberait. Alors, mais non, car avec les autres membres du groupe Catogang, un certain Nono Retailleau,